Exposé présenté dans le cadre de la quatrième rencontre estivale du groupe de professeurs de philosophie chrétien de la conférence Sainte Catherine d'Alexandrie sur le thème de la nature. Frère David Perrin, ordre des prêcheurs, directeur du Studium des Frères Dominicains à Bordeaux. Ars imitatur naturam, réception et interprétation thomasienne de l'adage.
À trois reprises dans son œuvre, Aristote affirme, à la suite très vraisemblablement des médecins hippocratiques, que l'art imite la nature. Alors, une première fois dans la physique, à propos du sujet même de la physique, une deuxième fois dans ce même livre, à propos de la finalité dans la nature, et une troisième fois dans les météorologiques, à propos de la coction artificielle. C'est le deuxième de ces passages qui est le plus important. Aristote développe dans ce passage et dédouble en fait la formule initiale « l'art imite la nature », voilà ce qu'il dit. D'une manière générale, l'art, dans certains cas, parachève ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir, dans d'autres cas, il imite la nature. Le stagirite ne se contente pas d'établir ici une analogie entre l'art et la nature, mais il affirme que l'art opère comme la nature. De sorte que, c'est un peu paradoxal, si une maison était au nombre des choses produites par la nature, elle serait produite de la même façon qu'elle est effectivement produite par l'art. Et l'art opère à tel point comme la nature, selon lui, que celle-ci, la nature, réaliserait, si elle le pouvait, de la même façon que lui, les objets que l'art produit. Et à l'inverse, ça donne le vertige hein, déjà, si l'art devait produire des choses que la nature fait déjà, il agirait exactement comme elle. Donc, vous pourrez relire ça à tête reposée. Après avoir dit que la nature ferait en quelque sorte de l'art si elle le pouvait, Aristote soutient que l'art ferait en quelque sorte de la nature s'il le pouvait. Donc nature et art apparaissent soudain étonnamment homogènes au point que l'on ne sait plus très bien qui est le modèle de l'autre. L'indécision est d'autant plus grande que la nature œuvre, d'après Aristote, comme quelqu'un d'intelligent. La nature œuvre comme quelqu'un d'intelligent, ce qui est quand même assez paradoxal. Comme quelqu'un qui opérerait, autrement dit, par art. Donc la nature ne serait-elle pas, au fond, un art déguisé et l'art une ruse de la nature pour œuvrer sous un autre mode? Peut-on encore distinguer physis et techné, comme le note Hans Blumenberg, si la nature, si la physis, est pour ainsi dire auto-technique, et si la techné, de son côté, n'est autre qu'une physis continuée, mais sous un autre mode? Alors ce brouillage, un peu inattendu quand même, entre physis et techné, s'observe en d'autres lieux de l'œuvre d'Aristote, où la formule n'est pas énoncée, mais présente en substance. Au chapitre 4, de la poétique notamment. Aristote dit, vous le savez bien, que l'art poétique est une mimésis, une imitation de la nature. Alors il ne pense pas d'abord, comme nous, à la représentation de réalité naturelle, les arbres, les pioupiou, le torrent, la montagne, etc., le lever de soleil, il pense d'abord à la représentation de réalité morale, c'est-à-dire aux réalités qui relèvent de l'humaine nature. Il soutient également que l'art poétique procède de dynamisme naturel, c'est-à-dire de tendances inscrites dans la nature de l'homme. Alors ces deux points soulèvent exactement les mêmes questions que dans le livre 2 de la physique. Où s'arrête la nature et où commence l'art? puisqu'il est dans la nature de l'homme d'imiter par son art la nature, puisque c'est dans sa nature d'imiter la nature, l'art n'est-il pas au fond un produit de la nature, une sorte de nature au carré? Alors quand l'adage « et techné mimetai ten fusin » tombe dans les mains d'un docteur chrétien, ces questions deviennent, alors là pour le coup, totalement vertigineuses. Car la nature, pour un chrétien, n'œuvre pas comme quelqu'un d'intelligent. La nature est l'œuvre d'une intelligence. Par conséquent, l'imitation artistique de la nature ne serait-elle pas, au fond, l'imitation artistique d'un art, celui de Dieu, œuvrant dans la nature? Avec la doctrine chrétienne de la création, l'ambiguïté aristotélicienne concernant la parenté ou l'homogénéité de l'art et de la nature se lève, mais elle se lève parce qu'on sait que la nature n'est pas seulement n'œuvre pas comme quelqu'un d'intelligent, mais qu'elle est l'œuvre d'une intelligence, donc ça se lève, mais aussi ça se complique considérablement. Alors pour avoir une petite idée, bien sûr, des bouleversements que le christianisme fait subir à cet adage, j'ai voulu savoir comment saint Thomas d'Aquin, notre maître, notre Reis à nous, l'a utilisé et interprété. Alors les occurrences de la formule, j'ai fait ma petite enquête dans son œuvre, sont relativement modestes, 15 au total, plus une dizaine de variantes. Mais elles se trouvent, 1, tout au long de sa carrière, vraiment, du commentaire des sentences aux questions des Malots et à la Somme, 2, dans des contextes philosophiques et théologiques fort divers, 3, en des lieux parfois stratégiques, comme le prologue du commentaire de la Politique. Il structure tout le prologue sur cette citation. 3 signes qui montrent l'intérêt et la portée de cet adage. Alors saint Thomas ne fait pas que citer l'adage aristotélicien, il s'en empare et il interprète de manière fort originale. Alors on verra tout d'abord qu'en faisant de Dieu la cause de la ressemblance et de l'imitation de la nature par l'art, saint Thomas change complètement la manière de les comprendre. On étudiera ensuite la triple déclinaison de la deuxième partie de la formule d'Aristote. Le perfectionnement opéré par l'art est considéré premièrement comme ce par quoi l'homme accomplit sa propre nature. Donc là, on revient à des thématiques qui ont été dites tout à l'heure, évoquées tout à l'heure. Deuxièmement, et là aussi ça revient à des points abordés, le perfectionnement opéré par l'art de la nature apparaît comme une suppléance possible aux déficiences de la nature, et troisièmement, comme une aide apportée à la nature. Et dans une troisième partie, on cherchera à comprendre les répercussions sur l'adage d'une théologie de la création conçue comme l'œuvre d'art de Dieu et comme mode par appropriation trinitaire, comme la nature, comme l'œuvre du Verbe qui est l'art du Père, selon la formule de saint Augustin, que saint Thomas reprend totalement à son compte. Alors, tout d'abord, une première partie sur art imitatur naturam, ressembler et imiter. Le verbe grec mimetai et le verbe latin imitatur cachent une difficulté de traduction et d'interprétation que j'aimerais faire d'emblée ressortir, parce qu'on risque sinon de se méprendre sur le sens de l'adage chez Aristote et Thomas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'une part à cause de la langue française, et d'autre part à cause de l'interprétation quasiment exclusive qu'on a faite de l'adage à partir de la poétique, mimetai et imitatur ne signifient pas toujours une imitation active de la nature par l'art, mais simplement une analogie d'opération, si vous voulez, une ressemblance opérative. Si bien que l'adage, selon le contexte, en français, mériterait d'être traduit par, tout simplement, non pas « l'art imite la nature », mais « l'art ressemble à la nature ». Point. Donc ça, je pense que c'était quand même important de le montrer. C'était donc mon premier point, dans cette partie, première partie, l'art ressemble à la nature.
C'est passif aussi, imitatour, non ?
C'est, en fait, c'est, imitatour, c'est un dépendant. C'est un dépendant. Donc c'est un verbe qui avait à l'origine un sens passif, mais qu'il a perdu. Qu'il a perdu. Mais donc ce qui montre que ce fait linguistique montre qu'il y avait initialement une passivité initiale. Voilà. Donc l'art ressemble à la nature. Aristote et Thomas ne font bien souvent que constater en fait une simple analogie entre l'art et la nature. Donc je ne vais pas vous trouverez tous les textes qui en parlent. Par exemple, je donne un simple exemple dans la somme de théologie, il montre que l'art, comme la nature, peut avoir une double intention dans ses opérations. C'est-à-dire qu'on peut avoir une double fin. On peut chercher deux choses, faire une pierre deux coups, si vous voulez. Bon, ça se trouve à la fois dans la nature et dans l'art. Et là, il dit, l'art imite la nature. La preuve, c'est que l'art peut avoir deux fins, comme la nature peut avoir deux fins. Bon, en réalité, il n'explique rien. Il se contente simplement de signaler une similitude. Le principe est entendu comme un fait, mais son origine n'est pas expliquée. Bon. Deuxième point. Donc, vous voyez, il y avait quelques textes pour prouver ce que j'avance. Deuxième point, qui est quand même plus ce qui nous intéresse le plus. En effet, l'art ne fait pas que ressembler à la nature, elle l'imite activement. Et dans une certaine mesure, la nature est bien une cause exemplaire de l'art. Alors cette exemplarité, et c'est mon deuxième point, recouvre plusieurs choses différentes. Tout d'abord, quand un sculpteur représente d'après nature un homme, il est clair que cet homme, cette femme, est un modèle pour le sculpteur. Mais plus excellente encore pour les anciens, à la fois pour Aristote et pour Thomas, plus excellente encore que l'imitation des formes naturelles, il y a l'imitation des modus operandi naturels. Ça, c'est ça qui intéresse le plus des anciens. Pas tant la forme que le modus operandi. C'est ce que saint Thomas, de manière très traditionnelle, fait observer à propos de l'art médical. L'art médical est conçu comme une imitation des procédés de la nature. Regardez le texte 1. L'art imite la nature dans sa manière d'agir. En effet, la nature guérit le malade en altérant, en digérant ou en expulsant la matière qui cause la maladie. C'est ainsi que l'art médical opère. Dans le commentaire du De Trinitate de Boèce, saint Thomas dit que l'art est obligé d'imiter la nature tant dans ses procédés, parce que la fin de l'action que l'art vise est un certain effet dans la réalité naturelle. Et puisque la fin commande les moyens, l'art médical est donc du coup tenu de se conformer aux propriétés biologiques et physiques du sujet qu'il soigne, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut assimiler. Donc la médecine est subalternée à la physique. L'art médical ne peut pas se passer de la nature dans ses principes. Il doit obéir aux sciences naturelles auxquelles il est simultané et il est subalterné. L'art médical doit se subalterner et il dépend de la chimie organique si on administre un médicament chimique. Il dépend de la mécanique des fluides s'il régule la circulation du sang dans le cœur, etc. Alors la conformation de l'art à la nature est plus étroite encore et plus flagrante quand le médecin, ça c'est un cas qui intéresse beaucoup les anciens, quand le médecin se soigne lui-même. Parce qu'en se soignant lui-même, il imite la nature qui habituellement est son propre médecin. Donc là, on retrouve un thème très ancien de la médecine hippocratique, qui est celui de la natura medicatrix, c'est-à-dire la nature qui s'auto-soigne, en fait. Et quand c'est le cas du médecin qui, par son art, se soigne lui-même, là, c'est, pour Aristote et pour les anciens, le cas le plus parfait, de l'imitation la plus parfaite. C'est comme si une deuxième nature qui se soigne elle-même. Donc, dans le cas de l'art médical, la nature est non seulement un point de départ, terminus aquo, mais aussi un point d'arrivée. Terminus ad quem. Donc afin de servir la nature, puisque c'est ça la fin, le médecin doit l'imiter jusque dans le choix des moyens, des procédés et de l'ordre adopté dans ces opérations. Mais dans la production d'objets artificiels, l'art n'imite pas autant la nature. Faut-il suivre la nature ? Oui, mais il y a des moments où on ne la suit pas totalement. Tôt ou tard, elle se démarque d'elle. L'art se démarque de la nature. Cette démarcation ne doit pas être interprétée comme un affranchissement ou une libération de la nature. Pourquoi ? Parce que rien dans l'art ne le pousse à s'opposer à la nature, d'être une anti-nature. Pour reprendre une expression célèbre du 19e siècle. L'art comme anti-nature, c'est une expression qui a été forgée par Comte et Marx et Engels qui parlent d'antifugis eux aussi. Saint Thomas cite un adage qui se retrouve y compris jusque dans le droit. L'art imite la nature toujours dans la mesure du possible. In quantum potest. Donc si l'art se démarque de la nature dans la production des artefacta, c'est pour la simple et bonne raison que la nature a une causalité limitée. Regardez le texte 4. La nature, toutefois, n'accomplit pas ce qui relève de l'art. Elle ne fait que fournir certains principes préalables et offrir aux hommes de l'art une forme de modèle pour ce qu'ils ont à faire. Donc l'art s'inspire de la nature dans ce cas de figure, mais jusqu'à un certain point seulement. Art et nature sont distincts, bien distincts, même s'il existe entre eux des similitudes d'effets et d'opérations, mais aussi des rapports d'imitation. Alors, encore faut-il expliquer pourquoi l'art ressemble ou pourquoi l'art imite la nature, ce qu'Aristote ne fait pas. Voilà pourquoi je m'interroge dans mon troisième point sur la cause de la ressemblance et de l'imitation. Alors, Aristote a remarqué que la nature et l'art ont l'intelligence en commun. Pourquoi ? Parce que la nature est pétrie d'intelligence et parce que l'art est une œuvre d'intelligence. De sorte que leurs effets, les effets de l'art et de la nature, et leurs opérations sont analogues, ni univoques, ni équivoques. Mais Aristote ne s'interroge pas sur la cause de cette analogie. À la différence de Platon, pour qui tout ce qui existe a son principe dans une idée subsistante, séparée, un modèle éternel. Pour Platon, aussi bien le lapin, le chien que le lit a un principe, une idée. Donc, il n'est pas étonnant, d'après Platon, qu'il y ait des similitudes entre les réalités artificielles et les réalités naturelles, puisqu'elles ont en commun toutes ces réalités, les idées pour principe ultime, ces formes rationnelles d'après lesquelles le démiurge a œuvré. Alors saint Thomas se rapproche de Platon pour comprendre la cause de cette similitude et de cette analogie et de cette imitation. Il se rapproche de Platon en concédant l'existence d'une exemplarité divine, mais en rapatriant les idées subsistantes séparées, qui existaient comme ça, de manière séparée, les rapatriant en Dieu. Et en faisant, et c'est ça la deuxième correction, en faisant de l'esprit humain, à l'origine, qui est à l'origine des réalités artificielles, une certaine participation créée de l'intellect divin. Donc là, c'est vraiment une... Il se rapproche de Platon, mais avec une correction qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Regardez le texte 1. Comme Aristote l'enseigne au deuxième livre de sa physique, l'art imite la nature. En voici la raison. Tout comme entre principes, il y a une relation de proportionnalité entre les opérations et leurs effets. Or, le principe des produits de l'art est l'intellect humain, lequel dérive, moyennant une certaine similitude, de l'intellect divin qui est au principe des réalités naturelles. C'est pourquoi il faut à la fois que les opérations de l'art imitent celles de la nature et que les produits de l'art imitent les êtres naturels. Parce qu'en fait, au principe de l'homme, il y a Dieu, et au principe des réalités naturelles, il y a Dieu. Donc puisqu'on a un même principe, il est logique que dans les effets, même s'il y a une sorte de cascade, on arrive à des choses analogues et même à une imitation de l'un par l'autre. Ce texte explique pourquoi il est normal que l'homme fasse comme la nature et qu'il s'en inspire. Qu'il fasse comme elle tout d'abord, même à son insu. Parce que comme je viens de vous le dire, elle et lui, la nature et lui, dépendent en fait d'un seul et même principe. Ensuite, il est normal que l'art s'inspire de la nature, parce que la nature est l'œuvre d'une intelligence qui est supérieure à celle de l'homme. Donc puisque la nature est l'œuvre d'une intelligence supérieure à celle de l'homme, il est normal que l'intelligence humaine, qui est inférieure à l'intelligence divine, s'inspire de cette œuvre qui est le fait de Dieu, d'un supérieur. Donc en fait, l'homme ne peut pas trouver meilleur modèle à la fois pour ses opérations et ses productions que la création divine. L'imitation de la nature chez saint Thomas, c'est ça qui est très important, n'est pas une fin en soi, mais une sorte de condition pour que l'homme opère semblablement à Dieu dans le domaine qui est le sien. Regardez le texte 2 qui se rapproche du texte 1 mais qui n'est pas tout à fait pareil. Aussi l'intellect humain, atteint par une lumière intelligible qui dérive de l'intellect divin, a-t-il besoin de conformer ses œuvres à celles de la nature en étudiant celle-ci afin d'opérer semblablement ? Afin d'opérer semblablement, c'est comme opère l'intellect divin dans les choses naturelles. Donc en fait, vous voyez, le fait d'avoir manifesté la cause de la ressemblance et de l'imitation a changé en fait complètement la manière de les comprendre. Là, Aristote est dépassé. La ressemblance et l'imitation de la nature qu'Aristote considérait finalement comme une sorte de fatalité ou comme une sorte de norme, de coïncidence, de norme immanente à l'action pratique est vue à présent comme la conséquence d'une similitude dans le principe des effets. Pour le dire autrement, l'homme qui fait son œuvre ressemble à Dieu faisant son œuvre. Et cette similitude voulue par le Créateur est donc, dans un contexte chrétien, une incitation. Une incitation. L'homme est appelé à opérer de son mieux comme Dieu. Donc avant d'étudier un peu plus en détail cette relation que l'art humain entretient à l'art divin via l'imitation de la nature, j'aimerais examiner la manière dont saint Thomas interprète la seconde partie de l'adage.
La nature est supérieure à l'art.
Eh bien non. Non, parce que justement, ce qui est. Parce que comme l'homme, d'une certaine manière, est supérieur, là pour le coup, à la nature, il œuvre comme Dieu. Il se sert, par contre, de la création divine pour justement faire comme lui. Ouais. Alors, regardons la deuxième partie de l'adage, parce que je vous avais dit dans le livre de la physique, l'adage est dédoublé. L'art ressemble à la nature et limite d'après Aristote, mais il fait également, dans certains cas, ce qu'elle ne peut pas faire. Et le fameux épithélèï. Alors, comment saint Thomas comprend-il cette opération perfective? De trois manières, me semble-t-il, je vous l'ai indiqué en introduction. L'Aquinate envisage premièrement les arts comme une manière pour l'homme de parfaire sa propre nature. Ça, c'est une idée qu'on connaît, qui est très belle. Pourquoi? Parce que le genre humain vit d'art et de raison. D'ailleurs, cette citation, je vous rappelle que Jean-Paul II l'a citée à l'UNESCO, pour parler justement de l'art, l'art artistique, l'art esthétique. Commencez par là. Donc en effet, l'homme est le seul animal qui agit plus qu'il n'est agi, le seul capable de parachever par sa raison sa propre nature. Voilà un premier sens. Saint Thomas considère deuxièmement, et de manière plus étroite, l'art comme une certaine suppléance à certains défauts de la nature. Et troisièmement, il interprète l'art comme une aide apportée à la nature. Alors tout d'abord, le genre humain vit d'art et de raison. Le bon usage de l'art apporte un premier perfectionnement dans l'ordre naturel à la nature humaine, à l'homme. Alors, pour illustrer ce thème, j'ai trouvé un texte peu connu, mais fort intéressant, du commentaire de l'Épître aux Corinthiens. Alors, ce passage est assez amusant. Saint Thomas s'interroge sur la nature artistique de l'homme à l'occasion d'un développement sur le voile dont les femmes doivent, selon Saint Paul, se revêtir dans les assemblées. Et Saint Thomas commence par rappeler dans ce passage le lieu commun, donc c'est sur le voile, pourquoi le voile, le lieu commun selon lequel les hommes, comparés aux autres animaux, semblent au premier abord sous-équipés. L'homme n'a pas, c'est un thème bien connu, de protection, de défense naturelle aussi efficace que les autres animaux. Il n'a pas de griffes, il n'a pas d'ongles, il n'a pas de dents acérées, il n'a pas la fourrure de, comment elle s'appelle, voilà, Minette. En tout cas, l'homme, par rapport à Minette, semble mal doté. Mais, saint Thomas dit, si l'homme est aussi mal doté, c'est exprès. C'est exprès. S'il n'est pas fini, c'est exprès. Afin qu'il se perfectionne par son art et par sa raison, puisque telle est sa nature. Regardez le texte. Il faut remarquer que la nature, qui fournit aux autres animaux les ressources nécessaires à la vie, ne les donne à l'homme que d'une manière imparfaite, afin que par le secours de la raison, il puisse les compléter par l'art, l'expérience ou la force physique. Ainsi, elle a donné aux taureaux des armes pour se défendre, mais l'homme se forge des armes pour atteindre ce but au moyen du travail manuel dirigé par la raison. Alors non seulement finalement l'incomplétude ou l'imperfection native de l'homme, secundum quid, hein, parce que, pourquoi je dis secundum quid ? Parce que l'homme n'est pas imparfait, c'est la créature la plus parfaite après l'ange. Donc faut pas non plus exagérer. Mais l'incomplétude ou l'imperfection native de l'homme, secundum quid, est très largement et très rapidement compensée au cours de son développement par la raison. Mais cette incomplétude est d'une certaine façon la condition matérielle du libre développement rationnel et artistique de l'homme. Le fait, pour reprendre l'exemple de saint Thomas, que la main de l'homme n'a pas de griffes, en fait, est un bien. Heureusement qu'il n'a pas de griffes. À la différence des pattes qui ont une fonction déterminée, les mains sont, comme le dit Aristote, instruments d'instruments. La main semble bien être, non pas un seul instrument, mais plusieurs, car c'est comme si elle était un instrument pour des instruments. Et saint Thomas de commenter, l'homme peut, grâce à elle, se préparer des outils d'une infinité de manières et pour une infinité d'usages, ce que nous ne pouvions pas faire si nous avions un croc ou simplement des griffes. Donc l'indétermination, finalement, et la non-spécialisation de ses mains, qui sous certains aspects pouvaient apparaître comme une sorte d'imperfection, en fait se révèlent de très bonnes dispositions. La nature, ou plutôt son auteur, Dieu, n'a donc pas raté l'homme, à la manière d'un sculpteur qui n'aurait pas réussi à aller jusqu'au bout de son œuvre. Tout est fait pour qu'il vive d'art et de raison, pour qu'il humanise et civilise sa vie, pour qu'il déploie les potentialités de sa nature. Et voilà pourquoi saint Thomas parle de la cité politique et de la politique comme des cités, comme quelque chose de naturel. Pas au sens de naturel qu'on trouverait dans la nature. On ne trouve pas la cité dans la nature, ou c'est certainement juste des formes, des proto-cités, si vous voulez, avec les animaux grégaires, mais au sens où il est naturel pour l'homme d'être politique.
On peut dire quand même qu'il y a une imperfection plus grande chez l'homme que chez l'animal, par exemple, parce qu'il n'est pas fini, comme vous dites,
Oui, mais que secundum quid, et qui est surtout compensé. C'est-à-dire qu'à la fin, qui arrive à avoir à la fois un croc, une arme, une défense, une fourrure, c'est l'homme, précisément, par sa raison. Et il pallie il surpasse même en plus toutes les défenses naturelles. Deuxième manière de comprendre le perfectionnement de l'art par la nature, art souplet defectum naturae. L'art pallie le défaut de nature. Il revient à l'homme, en effet, de poser par lui-même des opérations rationnelles qui conviennent à sa nature et l'usage de son art. Et par eux, l'homme peut, je dis bien peut, il n'est pas obligé, ça je crois que c'est très important de le rappeler dans une philosophie de la technique, l'homme peut remédier si besoin et s'il est juste à certains défauts de la nature. L'exemple du voile à l'origine de cette réflexion l'illustre de manière amusante. Le voile, la coiffe, le chapeau sont des objets qui remplissent de multiples fonctions plus ou moins nécessaires. Regardez, il arrive aussi, parce que l'art imite la nature, qu'il accomplit ce qu'elle ne peut pas faire. Ainsi, la nature a donné à l'homme des cheveux pour se couvrir la tête, mais comme cette protection est insuffisante, il suffit d'aller, comme demain on ira donc, à 45 degrés, à 3000 mètres d'altitude, sur le glacier ardent, c'est ça ? C'est le projet. Ouais, voilà, très bien. Et donc là, on va mourir de chaud. Et comme la protection de nos cheveux, surtout pour ceux qui en perdent un petit peu, est insuffisante, il se prépare par l'art une autre manière de se couvrir. La même raison existe donc, et pour le voile naturel des cheveux, et pour ceux qui le complètent artificiellement. Donc en gros, là, par son art, l'homme prend le relais de la nature et la surpasse en fonction de ses besoins, quand celle-ci ne va pas assez loin ou n'est pas capable de faire mieux. Ce dépassement répond à un défaut dans la nature qui peut être habituel, comme le montre l'exemple du voile ou accidentel. Saint Thomas donne un autre exemple qui est très beau. Qu'un homme et une femme, par exemple, ne puissent pas engendrer est un accident de la nature. Mais le droit positif peut pallier cette incapacité accidentelle. Regardez le texte 2. L'art imite la nature et supplée à une carence de la nature. Là où la nature s'est montrée déficiente. Bah, de même que par la génération naturelle, quelqu'un produit un fils, de même en vertu du droit positif, qui est l'art de ce qui est juste et bon, peut-il prendre quelqu'un comme fils à la ressemblance d'un fils naturel, et pour supplier au manque de fils, ce pourquoi l'adoption a été surtout introduite. Donc en fait... Ah ben attendez, ça on va voir. Après c'est la question de l'usage. Pour saint Thomas comme pour les juristes de son temps, le droit civil peut remédier à un défaut de la nature, mais il demeure toujours réglé par elle. Celui qui adopte ne peut être, par exemple, de la même génération que celui qui est adopté. Il ne peut pas avoir le même âge. Il faut que ça suive la nature. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une différence d'âge. Adoptio imitatur naturam.
Oui, vous avez dit, c'est-à-dire cette complexité entre l'art imite la nature en même temps qu'il la perfection.
Oui. Imiter la nature signifie respecter un certain ordre physique ou biologique, mais c'est obéir aussi à certaines règles fixées par celui de qui cette nature tire son origine. Sinon, on arrive à des choses contre nature. Après avoir présenté l'art comme ce par quoi l'homme réalise sa propre nature, saint Thomas l'interprète ici comme une suppléance aux défauts et aux insuffisances de la nature quand c'est nécessaire. Les deux aspects sont distincts et complémentaires. Mais ce n'est pas la seule interprétation que saint Thomas donne du célèbre épithéleï d'Aristote. Parachever la nature veut dire aussi l'aider, dans certains cas, à parvenir à ses fins. Et on arrive à mon troisième point, dans cette deuxième partie, ars naturam aliuvat. L'art aide la nature. Alors, la manière dont saint Thomas conçoit, par exemple, l'art médical, illustre bien cette troisième manière de concevoir l'action perfective de l'art sur la nature. Saint Thomas ne doute pas des pouvoirs et des bienfaits de la médecine. Même si le miracle de la dent, rapporté par Guillaume de Tocco, semble montrer qu'il préférait s'en remettre à la providence divine plutôt que de passer chez le dentiste. Mais au Moyen-Âge, c'est fort compréhensible. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Guillaume de Tocco. Donc, Guillaume de Tocco raconte que saint Thomas devait faire court et il sent le soir une douleur mais pas possible à la gencive, etc. Il s'est dit, mince, j'ai une dent pourrie et tout. Il faut absolument que je passe chez le médecin, mais j'ai pas le temps parce que demain, il faut que je fasse cours. Donc il prie pour qu'il se passe quelque chose pour pouvoir donner cours et transmettre la parole de Dieu. Et par miracle, le lendemain matin, il est absolument guéri et il n'a pas besoin de passer chez le médecin. Voilà. Et donc du coup, il est un des patrons des dentistes.
Voilà. Donc, la sécurité sociale, peut-être. Il n'y a pas des dentistes. Les dentistes doivent avoir des malades.
Ah oui. Faire des économies. Ah, c'est vrai. Alors peut-être, je ne sais pas, mais je croyais que c'est... Oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit de ces visites médicales. Non, mais c'est pour rappeler aux dentistes que parfois il y a des principes supérieurs à leur art.
C'est voilà. La mort des dentistes.
Ah, c'est vrai.
C'est ce qu'avait dit Padre Pio quand il avait inauguré son hôpital.
Ah bon.
Il a dit c'est... Votre médecine est très belle, mais n'oubliez pas que la médecine de Dieu vous est supérieure.
Ah, c'est beau ça. Donc, quoi qu'il en soit de ces visites médicales, saint Thomas considère la médecine comme un principe réel de guérison. mais elle n'est d'après lui ni la cause unique, ni la cause première et principale du retour à la santé. Pourquoi ? Parce que l'art médical est un principe extrinsèque. Et puisqu'il consiste dans l'action d'un corps sur un autre, il ne peut agir qu'en complément ou en auxiliaire du principe intrinsèque. En gros, l'art médical coopère avec la nature, il veut ce que veut la nature, la fin de l'art médical est la nature. Et c'est cette fin-là qui est sa fin. Ce que l'on observe pour l'art médical vaut également pour l'art éducatif. Dans l'art de l'enseignant coopère avec la nature de l'élève, et vous le savez bien. C'est pas l'enseignant qui peut faire connaître, qui peut apprendre. C'est l'enfant, l'élève, qui apprend au contact extérieur de l'enseignant. Mais l'enseignement, c'est pas un transfert de savoir. Il faut qu'il y ait la nature propre de l'élève qui, par lui-même, comprenne ce qu'on lui dit. Mais si on aura beau expliquer et être le plus pédagogique possible, il faut encore que l'intelligence se saisisse de ce qu'on lui donne. Mais ce n'est pas le prof qui peut faire la lumière dans l'esprit de son élève. C'est bien l'esprit... Sinon, ça se saurait. Hein. C'est pas possible. C'est une erreur. La cause principale du savoir... première et principale du savoir, comme de la guérison, c'est la nature de la personne. Et la médecine, elle aussi, doit se rappeler qu'elle n'est qu'un principe extrinsèque. Et c'est pas elle qui fait la guérison. Elle l'aide, elle donne un coup de pouce à la nature pour réussir à atteindre ses fins.
Et donc on dit comment, c'est une cause instrumentale ?
Exactement, exactement. L'enseignant qui ne cause pas la science dans l'âme, ne cause la science dans l'âme de son disciple, qu'au titre d'une cause instrumentale. Celui qui comprend, c'est le disciple, c'est pas le maître en lui. Alors là, j'avais plein de textes magnifiques sur le De Magistro. Je vous donne ce texte-là, le texte 2. L'homme qui enseigne assure un service purement extérieur à la façon du médecin qui guérit. Mais de même que la nature intérieure du malade est la cause principale de la guérison, de même, la lumière intérieure de l'intellect est la cause principale de la science. Ah non, mais c'est magnifique ce texte. Non, mais c'est magnifique. Hein. Et puis aussi, ça permet aussi de responsabiliser les élèves, de le faire comprendre, mettez-le aux profs, aux parents aussi, aux élèves et aux parents. C'est-à-dire, je ne suis pas Dieu Tout-Puissant. C'est, si votre élève, si votre enfant voilà, ne comprend pas, c'est peut-être aussi à lui... voilà, faire le chemin. Je peux pas le faire à sa place.
En fait, un élève, c'est à une nature intérieure malade.
Non, il est comme une sorte de tabula rasa sur certaines choses.
Et surtout le raisonnement, personne ne peut le faire à la place.
Personne.
Du sujet.
Ouais.
Et puis il y a quelque chose d'assez cartésien aussi, dans le fait que tout le monde a la possibilité. En fait.
Tout le monde a la possibilité parce que Dieu a créé exactement. Pour chaque personne humaine. Une nature rationnelle. Après, il peut avoir, en effet, du fait de l'individuation par les corps, aussi des dispositions ou des indispositions, ou des handicaps ou des obstacles.
Mais on sent bien quand même dans le texte que tout le monde est dans le chemin.
Exactement.
Tout le monde est. Il y a d'autres textes où on n'a pas dit que tout le monde n'est pas capable, de faire de la métaphysique. Pardon ?
Oui.
Comment dire, Saint Thomas n'est pas égalitariste.
Ah, d'accord. Dans ce texte-là, j'avais l'impression
que ça met. Alors, après avoir vu dans une première et deuxième partie comment saint Thomas comprenait et utilisait l'adage aristotélicien, sous l'angle 1 de la ressemblance et de l'imitation de la nature, tout d'abord, et deuxièmement sous l'angle de l'accomplissement ou du parachèvement de la nature, j'aimerais pour finir voir ce qu'il advient de l'une et de l'autre quand la nature est conçue comme l'œuvre d'art de Dieu. Donc, encore un peu d'attention et de courage, imitation de la nature et imitation de l'art divin.
C'est pas parce qu'il y a mal qu'il y a faute.
Ah, bon, s'il vous plaît, on va pas se. S'il vous plaît, là on commence à partir dans tous les sens. La nature n'est pas l'œuvre du hasard pour Aristote. La nature n'est pas l'œuvre du hasard pour Aristote. Le philosophe observe qu'elle est raisonnée, c'est-à-dire ordonnée et finalisée. Est-ce à dire qu'elle est résonante ? Aristote n'est pas loin de le suggérer, hein. Quand il affirme qu'elle ne fait rien en vain, ce qui, à bien y réfléchir, est comme une formule un peu ambiguë, la nature ne fait rien en vain, ou qu'elle agit pour le mieux, ou qu'elle donne à chacun ce qui lui revient. cette personnification de la nature, chez lui, n'est sans doute qu'une figure de style. Mais il faut quand même expliquer comment la nature peut agir avec autant d'art, n'étant pas elle-même capable d'art. Alors la révélation chrétienne apporte la réponse à cette question en faisant de la nature l'œuvre de la raison de Dieu. La nature manifeste une rationalité, mais qui en fait ne vient pas d'elle, mais d'un principe divin, extérieur, mais qui opère en elle. La théologie de la création bouleverse donc l'imitation artistique de la nature, puisque ce que l'art humain imite en définitive à travers la nature, c'est l'art de Dieu. L'homme est devant la nature comme un disciple qui, contemplant les productions de son maître et ses méthodes, s'en inspire pour opérer à son tour. Alors tout d'abord, premier point, les naturalia conçus comme des artefacta divins. Le dépassement de la conception aristotélicienne de la nature et de son imitation, ce dépassement-là, s'effectue d'une manière spectaculaire à l'intérieur du commentaire d'Aristote, à la fin de la 14e leçon du livre 2 de la physique, avec cette phrase qui est totalement folle. La nature n'est rien d'autre que la ratio d'un certain art, un art divin, à l'intime des choses, par lequel elles sont mues vers une fin déterminée. Comme si l'artisan constructeur de navires pouvait s'insérer dans le bois de sorte que le bois se mette lui-même à revêtir la forme du navire. Donc là, Aristote est totalement dépassé. Je passe sur le renversement, parce qu'en plus, il y a un renversement même dans l'exemple d'Aristote, en disant que finalement, l'art divin peut ce que ne peut pas faire l'art humain, c'est-à-dire être à la fois extérieur et intérieur à la chose. Parce que Dieu est bien un principe extérieur, sinon on tombe dans le panthéisme. Hein. Et pourtant, alors qu'il est principe extrinsèque, il est celui qui agit au plus intime des choses.
Parce que les gens vitales, enfin, celui-là poussé...
L'a poussé, mais sans qu'il s'identifie à la chose elle-même. Mmh. Et c'est ce texte qui parle de ce rapport entre extrinsèque et intrinsèque que je trouve très beau. Dieu lui-même est la cause propre et immédiate de chaque réalité, et d'une certaine façon, une cause plus intime à chacun qu'il n'est à lui-même, qu'il n'était intime à lui-même, comme dit saint Augustin. Donc en fait, Dieu est le principe directeur de chaque réalité naturelle, opérant à l'intime, selon une triple causalité que vous connaissez bien, efficiente, finale et exemplaire. Efficiente parce que c'est de lui que les choses tiennent l'être, le mouvement et pour certaines la vie. Dieu est cause finale parce que toutes les naturalia sont ordonnées à lui comme à leur fin dernière, c'est-à-dire pour leur bien ultime, avec tout ce que ça comporte, hein, de séries de biens intermédiaires. Et enfin, il est cause exemplaire, parce que chaque réalité est une certaine similitude de Dieu. Regardez. Comme toutes les réalités naturelles se rapportent à l'intelligence divine, comme les œuvres d'art se rapportent à l'art. Donc cela veut dire que les réalités naturelles sont autant par leur forme que par leurs opérations, j'insiste sur ce, vous avez bien compris, j'ai insisté sur cette distinction, les réalités naturelles, tant par leur forme que par leurs opérations, sont l'œuvre de Dieu et donc l'expression de son art. Et il ne faut pas avoir peur, parce que saint Thomas le dit tout le temps, de dire que l'œuvre de la nature est l'œuvre d'une intelligence et donc en fait l'œuvre de l'art, l'œuvre d'art de Dieu. Elle procède de Dieu, non par nature, ce qui serait problématique. Si la création procédait par nature, ça serait du panthéisme. Ça serait une procession trinitaire, en fait. Enfin, trinitaire, enfin, divine, à l'intérieur des choses. Et donc, non, elle procède par mode d'art. Ce qui préserve la transcendance de Dieu. Donc, la conception d'art est une notion clé, en fait, à la fois chez saint Augustin et chez saint Thomas, notamment dans le commentaire des Sentences, pour maintenir la transcendance de la création, pour comprendre l'œuvre créatrice. Et donc, voilà pourquoi, puisque l'œuvre de la nature est œuvre de l'intelligence, et l'intelligence divine. Voilà pourquoi on peut comparer la nature et les réalités artificielles. Parce qu'en fait, toutes deux sont l'œuvre d'un art. Et voilà pourquoi on peut dire que la nature est sage, intelligente, habile comme un artisan. Parce que c'est Dieu qui l'a faite. Donc l'œuvre, la nature est l'œuvre d'art de Dieu, et par mode d'appropriation, elle est l'œuvre de la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, qui est, selon l'expression de saint Augustin, l'art du Père. Regardez, tout artisan, texte 4, agit par son art. Or, selon Augustin, le Fils est l'art du Père rempli de raison vivante. Le Père agit donc par le Fils. Deuxième petit point, de l'art du Père à l'art de l'homme. Alors, je ne vais pas la développer, cette partie, autant que je voudrais. Mais c'est pas très grave.
Raison vivante, c'était au singulier ou...
Non, au pluriel. Et oui, parce que raison vivante, parce qu'il y a plusieurs idées en Dieu. Et donc, le Fils est l'idée incréée du Père, le Logos, dans lequel se trouvent les idées divines et le modèle exemplaire, par mode d'appropriation. Le Verbe est donc celui par qui tout a été fait. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Le Père est l'opérant, et le Fils, celui par qui il opère. Alors là, il y a plein de développements théologiques très importants à tenir sur l'égalité du Père et du Fils. Et dire que le Fils, il est celui par qui il opère, oui, mais il n'est pas un instrument. L'instrument est inférieur. Et il agit par une puissance, le Fils, qui est égale à celle du Père. Sinon, il y a aussi un déséquilibre à l'intérieur de la Trinité. Il est important de dire aussi que le nom « art du Père » convient au Fils comme le nom de « don » convient à l'Esprit, c'est-à-dire pour signifier un certain rapport à la créature. Donc vous connaissez les noms, la différence entre les noms qu'on appelle qui est essentiel, et ensuite les noms qui peuvent être des noms économiques et qui indiquent un certain rapport soit immanent à Dieu, soit transitive à la création. Donc là, le rapport, en parlant du Verbe comme celui qui est l'art, on indique un rapport aux créatures. Chaque créature est dans le Fils, à la manière dont une œuvre d'art se trouve dans l'art et une chose dans la ressemblance. Donc, c'est dans le Verbe de Dieu, je ne développe pas plus, que se trouvent toutes les formes ou les idées d'après lesquelles les naturalia, les réalités naturelles, sont créées. Mais qu'en est-il des artificiala? Qu'en est-il des réalités artificielles? Est-ce que toutes les réalités artificielles se trouvent dans le Verbe? Le Verbe est-il l'art non seulement des réalités naturelles, mais aussi des réalités artificielles, de cela, du lit, etc. Saint Thomas ne pose pas la question. Je ne trouve à aucun moment la question posée de cette manière-là. Mais je pense qu'il donne la réponse à ce problème très important lorsqu'il affirme que les idées divines sont aux réalités naturelles ce que les idées humaines sont aux réalités artificielles.
L'intellect humain n'est mesurant que pour les choses artificielles.
Exactement. Et bien c'est exactement ce texte-là, le texte 3, en effet, qui permet de répondre d'avance à une question qui va agiter tout le XVIe siècle, toute la modernité. On relit, puisque c'est exactement celui que vous venez de citer. C'est un texte qui se trouve dans le De Veritate. Les réalités naturelles, d'où notre intelligence reçoit la science, mesurent notre intelligence. Les réalités naturelles mesurent notre intelligence, comme il est dit au 10e livre de la Métaphysique. Mais elles sont mesurées elles-mêmes, les réalités naturelles, par l'intelligence divine, en laquelle sont toutes choses, comme les produits de l'art sont tous dans l'intelligence de l'artisan. Ainsi donc, l'intelligence divine mesure et n'est pas mesurée, la réalité naturelle mesure et est mesurée, et notre intelligence est mesurée et ne mesure pas les réalités naturelles, mais seulement les artificielles. Donc le pouvoir que l'homme exerce sur les réalités artificielles est analogue à celui que Dieu exerce sur les réalités naturelles. Sa liberté en matière d'art participe de la liberté poétique de Dieu. Et son inventivité est une certaine participation à sa causalité créatrice. Mais si les réalités artificielles sont mesurées par l'homme, la mesure qu'il exerce n'est pas elle-même sans mesure. Elle est limitée par la nature et par Dieu qui œuvre en elle. Donc la production des formes artificielles, si on s'en tient seulement au plan qualitatif, sans tenir compte encore du plan opératif, la production des formes artificielles dépend de la contemplation des réalités naturelles. Et par conséquent, des idées divines qui les mesurent. Ça, c'est très important de le dire. Hein. De dire que, malgré tout, les formes artificielles que nous produisons dépendent des formes naturelles. Saint Thomas adopte donc, au sujet des produits de l'art, une position intermédiaire, me semble-t-il, entre deux extrêmes. Il ne dit pas, comme Platon, qu'il existe une idée divine du lit, d'après laquelle l'artisan réaliserait son ouvrage. Ça, il n'est pas d'accord avec ça. Et il ne dit pas non plus qu'il existe des œuvres d'art qui n'imitent en rien la nature et qui ne sont d'aucune manière dépendantes des idées divines. Et ça, c'est la position de Nicolas de Cuse au XVe siècle. Nicolas de Cuse qui soutient que l'art humain n'imite jamais la nature. Enfin, peut ne jamais imiter la nature. C'est mon troisième point, une autre doctrine de l'imitation divine.
On peut avoir aussi ce qu'on appelle mesurer, là, parce que...
Enfin... Bah, attends, on pourra... Oui. La doctrine de Nicolas de Cuse marque un tournant majeur dans l'histoire de la pensée occidentale sur l'art. Car pour lui, et c'est ça le truc complètement... vraiment la rupture avec le Moyen-Âge avec Thomas, l'homme imite d'autant mieux Dieu qu'il n'imite pas la nature. Son art fini est plus à l'image et ressemblance de l'art infini de Dieu quand il produit l'homme des formes neuves dont Dieu n'a pas idée. Dieu n'a pas idée, selon Nicolas de Cuse, de formes artificielles. Et c'est comme ça qu'il ressemble à Dieu le plus. L'idiot, prenant une cuillère en main, texte 1. La cuillère n'a pas d'autre exemplaire en dehors de l'idée de notre esprit. En effet, alors que le sculpteur ou le peintre tire ses exemplaires des choses qu'il s'efforce de représenter, moi cependant, qui extrais du bois des cuillères et de l'argile des coupes et des cruches, je n'agis pas ainsi. Je n'imite la figure d'aucune chose naturelle, ce que je conteste. Hein. Des formes telles que celles de la cuillère, de la coupe, de la cruche, sont réalisées par le seul art humain. C'est pourquoi mon art est plus producteur qu'imitateur des figures créées, et en cela il est plus semblable à l'art divin, à l'art infini. Notez bien que si le Cusin relègue au second plan la nature, ce n'est pas pour opposer l'homme à Dieu, mais pour le rapprocher de lui. Dire que l'homme est créateur comme Dieu est une manière pour lui de manifester en fait la dépendance immédiate à l'égard de Dieu. C'est le texte 2 que je ne lirai pas. Mais pour le Cusin, l'homme est un second dieu. Il reprend le propos d'Hermès Trismégiste. Donc, en fait, alors regardez, ça, comme ça. Pour cette raison, l'homme a un intellect qui est, dans l'acte de créer, in creando, la similitude de l'intellect divin. Donc, en fait, c'est paradoxalement dans l'activité artistique non mimétique que l'homme, selon le Cusin, cultive le plus sa ressemblance à Dieu et se conforme à son exemplaire. Et cette conception de l'art humain plus perfectif qu'imitatif est d'autant plus imitatif de Dieu qu'il est moins imitatif de la nature, ne pouvait pas germer en terre thomasienne pour deux raisons principales. La première, c'est que l'homme n'œuvre jamais ex nihilo. Jamais. Il ne crée pas la matière sur laquelle il travaille, car c'est la nature qui, comme le dit Thomas, a préparé la matière pour les choses artificielles. Puisque la nature est le principe matériel des réalités artificielles, les réalités artificielles ne sont substance que par la matière. et elles ne sont pas substances par leur forme. Regardez le texte 6. La forme que l'art induit est une forme accidentelle, comme la figure ou quelque réalité de cette sorte. Par conséquent, les corps artificiels n'entrent pas dans le genre de la substance par leur forme, mais seulement par leur matière qui est naturelle. Donc en fait, l'artifex n'exerce sur les choses qu'un pouvoir limité. Il ne modifie à proprement parler que la figure des substances. Thomas le dit dans le passage, dans la fabrication d'une statue, en fait, aucune forme substantielle n'est abandonnée. Seule la figure est modifiée, qui est un accident. En effet, la forme du cuivre ou d'un autre matériau demeure. Ce qui vaut pour les œuvres faites à partir d'un seul matériau vaut également pour les œuvres qui en réclament plusieurs. La forme de la maison n'est pas une forme substantielle pour Thomas, car chacun des éléments de la maison conserve sa forme propre. Donc ça, ce genre de texte montre à quel point une vision de l'art comme une force créatrice est étrangère à la mentalité médiévale. En fait, on ne peut pas appeler, quand on est médiéval, un homme du Moyen-Âge, on ne peut pas appeler l'homme créateur, même de manière analogique. Saint Thomas ne dit jamais que l'homme est créateur. Jamais. Et même pas à titre analogique. Parce que pour lui, création, c'est quelque chose qui ne peut pas être participé, qui n'est pas une réalité pour le coup analogique. C'est la création, c'est la production de l'être à partir de rien. Donc les formes artificielles se greffent sur les formes substantielles naturelles comme sur un sujet dont elles dépendent pour exister. Et ce sujet est dépendant quant à son être de Dieu. L'œuvre d'art présuppose donc deux œuvres, celle de la nature et celle de Dieu qui l'a fait être. Regardez ce texte 9. Or, les choses artificielles sont conservées dans l'être grâce au pouvoir des naturels. Par exemple, la maison, par la solidité de la pierre. Toutes les choses naturelles ne sont donc conservées dans l'être que grâce au pouvoir de Dieu. La dépendance des formes artificielles à l'égard des réalités naturelles, qui les supportent et de la cause première qui les maintient dans l'être, se manifeste à un autre niveau, celui de la forme elle-même. Aussi originale et inédite soit-elle, les formes accidentelles s'inspirent de formes naturelles issues des idées divines. Et c'est ça, là où je pense que Thomas se place est en désaccord profond avec le Cusin. Certes, la cuillère, pour reprendre l'exemple du Cusin, n'existe pas telle qu'elle dans la nature, mais la courbure, pour ne parler que de la terminaison de l'ustensile, qui est capable de recueillir des liquides, se trouve partout dans la nature. Il suffit d'observer la forme de la main, le creux dans la terre, la roche ou le bois pour trouver des formes parentes à la cuillère. Et la forme de la cuillère est aussi fonction de l'organe corporel qui la produit et qui se sert d'elle. L'outil est toujours à des degrés divers, comme le dit Ernest Kapp, une certaine projection d'organes. Et il faut entendre cela non seulement d'un point de vue statique, le point de vue quiditatif formel, que du point de vue dynamique opératif. C'est-à-dire que la production artistique épouse les modus operandi naturels, à commencer par les dynamismes physiologiques de l'artifex. Le tableau se comprend à partir du pinceau, le pinceau à partir de la main, du bras et de l'œil, en fait du corps. L'outil est une projection d'organes. L'ordre technique, mécanique ou artistique suit donc, dans une certaine mesure, l'ordre anatomique et biologique. L'art épouse les dynamismes et les ressources du vivant. Cela ne veut pas dire qu'il s'y réduit. Donc fonder l'art dans la nature n'est pas assimiler purement et simplement techné et fusis, mais rappeler que les réalités naturelles, en général, et le corps de l'homme en particulier, demeurent toujours de quelque façon le patron de l'art humain, tant du point de vue des formes que du point de vue des modus operandi. Autrement dit, l'homme ne peut jamais se passer de la nature pour produire des formes neuves. Il doit toujours s'appuyer sur elle pour pouvoir faire du neuf. Et c'est pourquoi Thomas refuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de l'homme un créateur. Parce que créer implique la causalité en général. Non, pardon, c'est l'inverse. Créer implique la causalité première, laquelle ne peut être attribuée qu'à Dieu, texte 10. Faire, en revanche, implique la causalité en général, de sorte que Dieu est appelé créateur, mais artisan. Et cela peut se dire à la fois de Dieu, de l'ange et de l'homme. Artisan, oui, créateur, non.
Même pour le mal.
Ah bah oui. La deuxième raison, alors je finis sur ça, la deuxième raison qui empêche saint Thomas de faire de l'homme un créateur découle de sa doctrine de l'opération. Pourquoi ? Parce que l'artisan ou l'artiste qui conçoit et qui réalise une œuvre le fait toujours sous l'influx de la virtus, de la cause première qu'il a créée et qui lui donne d'opérer. Justement avec art. Donc l'homme ne peut produire une forme qui n'existerait pas en tant que telle, encore, oui, telle qu'elle dans la nature, sans Dieu. Donc non seulement Dieu a une certaine idée de la chose produite, mais Dieu œuvre à la production de cette œuvre. Et le concours que Dieu prête à l'homme n'enlève rien au mérite de ce dernier. Donc l'œuvre d'art est à la fois l'œuvre de l'homme en tant que cause seconde, mais aussi celle de l'artiste divin, cause première, qui lui donne d'agir précisément par art. Et comme la cause seconde n'égale pas la cause première, l'œuvre produite est plus finalement le fait de la cause première que de la cause seconde. Mais ça, c'est toute la doctrine de l'opération qui le montre. La cause première aide la cause seconde puisqu'elle l'a fait opérer. Donc, l'opération de la cause seconde par laquelle celle-ci produit son effet est davantage le fait de la cause première que de la cause seconde. Quand Picasso fait son œuvre, puisque la cause première est plus forte que la cause seconde, c'est bien plus l'œuvre de Dieu que de Picasso si on regarde la matérialité.
Ce que vous disiez, ça me rappelait une phrase de Chagall, justement.
Oui.
Ce n'est pas moi qui crée, c'est ma main.
Oui. Mais derrière, oui. Et ensuite, mais par contre, il faut ajouter une deuxième précision très importante. Les œuvres d'art sont plus les œuvres de Dieu que les nôtres, mais elles nous ressemblent plus qu'à Dieu. Elles nous ressemblent plus qu'à Dieu. Pourquoi ? Regardez ce texte magnifique que j'ai trouvé dans le Livre des Causes. On dit que la cause première influe davantage que la cause seconde, en ce sens que son effet est plus intime et plus durable dans ce qui est causé que l'effet de la cause seconde. L'effet ressemble pourtant davantage à la cause seconde parce que c'est par elle qu'est déterminée d'une certaine manière l'action de la cause première à cet effet. Donc, sous le plan de l'être, l'œuvre appartient davantage à la cause première qu'à la cause seconde, mais sous le plan de la forme, elle appartient davantage à la cause seconde puisqu'elle subit plus directement son effet. Donc c'est bien l'œuvre de Picasso, et ça porte plus la ressemblance et la marque de Picasso sous l'angle de la cause exemplaire que de Dieu. La doctrine donc thomasienne de la science, de la causalité de la science divine, de la causalité et de l'opération divine d'une part, et la doctrine de saint Thomas de l'opération artistique humaine et de l'imitation de la nature, tant dans ses formes que dans ses modus operandi, répond, selon moi, à l'avance à trois travers de la pensée moderne. Le premier travers, c'est l'opposition entre nature et liberté. C'est quoi cette idéologie ? C'est celle que vous avez rappelée tout à l'heure. L'art ne serait pleinement libre qu'à condition de ne pas être lié à la nature. Ça, c'est une erreur. L'art serait pleinement libre qu'à condition de ne pas être lié à la nature. Donc l'art serait par essence antinaturel et antimimétique. Eh bien, c'est oublier que l'homme fait partie de la nature, qu'il est une créature qui œuvre toujours d'après sa nature et d'après nature à partir d'une matière et d'une forme substantielle qui préexistent. Donc ça, premier travers de la pensée moderne que saint Thomas fait exploser, l'opposition de la nature et de l'art. C'est ça. Le deuxième travers connexe, c'est la concurrence entre Dieu et l'homme. Pour être libre, l'homme devrait s'affranchir non seulement de la nature, mais aussi de Dieu, de son auteur. C'est le fameux thème de la Renaissance, la souveraineté de l'artiste. Et la souveraineté de l'artiste dépendrait de la non-souveraineté de Dieu et de son retrait. Il faudrait que Dieu se retire pour que l'homme soit libre. Et bien c'est tout le contraire qui est vrai, parce que l'homme ne peut opérer que sous l'influx de la virtus, de la cause première. Et donc, l'opération de Dieu à l'intime de l'homme ne vole pas à ce dernier ses inventions. Au contraire, c'est lui qui donne à l'homme le pouvoir d'être inventif. Donc, premier point, opposition nature et art qui est fausse. Deuxième point, opposition et concurrence de Dieu et de l'homme qui est fausse. Et ça, c'est la doctrine de l'opération de saint Thomas qui vraiment le permet de le comprendre. Et le troisième faux problème, c'est sur la créativité de l'homme. D'après Olivier Boulnois, la théologie des idées divines qui est jointe à la métaphysique aristotélicienne des formes a rendu l'homme médiéval incapable de penser la nature de l'œuvre d'art et quelque chose, dit-il, comme la création d'une imprévisible nouveauté. C'est une citation. Donc, selon Boulnois, théologie des idées divines plus métaphysique aristotélicienne des formes égale impossibilité de comprendre ce qu'est une œuvre d'art et une certaine créativité de l'homme. Eh bien ça, je pense que c'est totalement faux. La doctrine thomasienne de l'art échappe à ces reproches. Elle concilie l'imitation de la nature et de l'art divin, l'exemplarité des idées divines et l'invention d'une forme neuve, la libre opération humaine et la causalité première de Dieu, l'œuvre de l'homme, de la nature et de Dieu, sans faire de l'homme le créateur qu'il n'est pas. Mais il y a bien une nouveauté qui est produite par l'homme, et il y a bien une œuvre d'art qui ne dépend pas directement, où il n'y a pas une idée divine qui préexiste à cette œuvre-là. Mais simplement, il y a bien quand même une dépendance de la forme neuve aux formes naturelles, puisqu'il y a un rapport d'imitation. Bon, j'avais une conclusion, mais je pense que finalement, je ne ferai que répéter et reprendre ce que j'ai dit, donc je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement.
Oui, moi, je vais bien commencer. Juste pour remonter sur la fin, mais j'avais une question avant. Bon, la forme que l'art induit est accidentelle.
Il n'y a qu'une modification de la figure des substances. En droit, pour l'art véritable, pour la technique véritable, mais la puissance matérielle, la puissance potestas acquise par l'homme et recherchée de plus en plus consciemment dans la modernité, s'ingénie à rendre les linéaments des idées divines dans les choses comme finalement sans rapport avec ce qu'on va produire. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a Il y a la question du mal ici à réintroduire, parce que, c'est bien, on est dans la dépendance de Dieu, on a un influx créateur, mais l'artisan ou l'ingénieur peut produire, grosso modo, à l'échelle de l'homme, à l'échelle de ce monde, du n'importe quoi. Et ce n'importe quoi produit suffisamment d'effets pour rendre le monde de plus en plus inhabitable. Donc là, Le rapport à la capacité inventive de l'homme qui vient de l'homme, il est en droit. Ce que devrait faire l'homme ou ce que peut faire l'homme, mais la liberté entre guillemets de l'homme et son usage déréglé de sa raison et de sa maîtrise de la nature lui permet d'aller vers la perspective du cousin, quoi. C'est le cousin prépare lui aussi avec d'autres c'est cette chose là ensuite dans la même suite du propos, toutes les formes de l'art sont possibles dans la nature indirectement. Mais j'ai entendu récemment un fait à tester: il n'y aurait pas d'angle droit dans la nature. Donc, il faut se poser la question jusqu'où on va.
Je pense que vous trouvez n'importe quel caillou cassé,
Ça ressemble.
Et ben oui, mais donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a rien qui, je pense même dans une composition extrêmement, extrêmement complexe, qui n'existe pas en effet tel quel même. Par exemple, si vous prenez le cas d'un monstre imaginaire d'un centaure, vous ne trouvez pas le centaure dans la nature. Mais simplement, il est le fruit d'une composition d'éléments substantiels qui, eux, existent.
Oui, le droit, c'est différent.
Mais enfin, la possibilité d'une contre-nature, on a des raisons, il faut la penser plus loin, quoi. Et ensuite, la différence entre créer et faire, bon voilà, Nodelanglois dit bah, transformer, quoi. La nature forme, mais nous on ne fait que transformer.
Ouais,
mais, voilà. Mais il y a des transformations qui peuvent gravement
altérer. Si je peux permettre, par rapport à votre discussion, le cas de l'angle droit ne va dans ce que vous dites. Puisque l'angle droit n'est pas tel qu'il est dans la nature, mais perfectionné par l'art de l'homme, si j'ai bien compris votre. Donc ça cadre. En fait, on va trouver quelque chose dans la nature qui est la cause première, au fond, et l'homme, justement, par l'artisanat, va le perfectionner. C'est ça. Oui, j'ai bien compris l'idée générale. Hein.
Ouais. Reste à savoir si c'est un perfectionnement en droit.
Mais ça, je pense que c'est après une autre réflexion. Enfin, c'est une autre réflexion qui est.
Ça peut être un pseudo-perfectionnement.
Qui est dans le.
Je crois qu'on est beaucoup là-dedans, quoi.
Mais qui est dans le. C'est comment dire. Ça, c'est une question qui est tout à fait juste, mais qui est dans l'ordre de la moralité de la technique. C'est-à-dire que là, on sort de l'ordre de spécification, à savoir qu'est-ce que produit l'art tel quel sur un produit ou sur la nature, et on sort sur, après, l'usage de l'art, l'usage de la technique, et là, on ordre sur est-ce que ce que l'on fait est selon la droite raison, et donc là, c'est la moralité de la technique.
Est-ce que l'homme a le droit de faire n'importe quoi?
Voilà,
est-ce que l'homme a le droit d'intervenir n'importe comment?
Non, c'est une question de droit, une question de morale.
Oui, mais
par contre, on peut peut-être prendre les choses autrement, par exemple, la culture de la terre, c'est pas l'imitation, c'est une espèce d'achèvement, de perfectionnement, non?
Oui, en tant que.
Alors, on peut le dire en un sens, si on prend la culture de la terre au sens très terre à terre des champs, d'accord. Mais d'un autre côté, on n'augmente pas nécessairement la fécondité du sol en défrichant les forêts. Et ça, c'est un vrai problème. Justement, le mot hacienda en espagnol vient d'un vieux mot latin dérivé du latin de facere. Il veut dire faire de la terre. Donc, le véritable paysan est quelqu'un qui, justement, va. Voilà, être dans cette imitation profonde de la nature pour la rendre plus féconde, etc. Sauf que quand on ne comprend rien au mécanisme de la fécondité de la terre, on défriche et on appauvrit. Et donc on a des problèmes.
Non, ça ne pose pas.
C'est exactement ce qui est.
C'est exactement ce qui est. Tout à fait.
Vous n'êtes pas en opposition.
On n'est pas du tout en opposition. Je pense que
c'est. Non, mais je ne suis pas en opposition, c'est en droit, en fait.
Voilà.
Je pense. Jusqu'où va notre pouvoir?
Moi, je dirais vraiment en morale. C'est-à-dire vraiment, je pense que la qualification de tout ce que vous dites. Pour moi, est vraiment la deuxième qui se pose, c'est une fois qu'on a saisi l'ordre de spécification, il y a l'ordre d'exercice et comment on exerce l'art.
Selon la nature.
Et selon la nature, selon la raison, selon les fins, selon les fins. Et là, quelles sont les fins? Et donc là, si on regarde par exemple l'ordre de l'homme à l'univers et l'ordre de l'homme à Dieu qui est sa fin dernière, est-ce qu'on peut utiliser la technique et faire telle chose? Non. Parce que là, à ce moment-là, par rapport à la fin qui est le bien commun de l'univers et ce bien ultime qui est Dieu, eh bien non, nous ne pouvons pas utiliser la technique agricole dans un sens qui va finalement, à moyen terme, dans une désertification.
D'accord, mais moi je préférerais clarifier les choses en disant qu'une technique qui n'est pas ordonnée à la fin dans sa définition n'est pas une technique.
Et eh ben,
pas employer de vos techniques.
Eh ben, parce que ça reste, c'est comme si vous dites par exemple que l'œuvre d'art ratée n'est pas une œuvre d'art. Eh bien, si c'est une œuvre d'art, mais comme un gâteau, c'est un gâteau, mais il est raté. Et donc, on peut pas lui retirer sous prétexte qu'il a raté sa fin le titre même d'œuvre d'art ou de gâteau. Mais et ça parce que sinon, si on maintient pas le fait que c'est bien une technique, mais une technique qui est sans finalité, ou en tout cas qui a raté sa finalité, eh bien là, on peut dire c'est un art sans art, ou un art qui n'est pas selon la droite raison humaine et selon Dieu. Voilà. Mais je préfère maintenir que c'est une technique, mais qui...
Un art sans art, ça me va.
Voilà. Non mais parce que ça évite, du coup, ça évite, je pense, même si on prend la question de l'œuvre d'art, ça évite des faux problèmes
en disant, il faut plutôt dire, oui, je reconnais, c'est une œuvre d'art. Elle fonctionne de manière esthétique, mais un esthétique qui est proche du néant, voire même qui est négatif. Et donc là, en fait, vous êtes en train de faire une œuvre d'art, mais qui est contre les règles de l'art.
Qui va vers l'auto-révolution de l'art.
Exactement. Et donc, en fait, c'est un art sans, oui, un art sans art, une technique qui finalement est déshumanisée, déshumanisante, contre les finalités, qui est sans fin.
Oui, ou une technique sans technique, ça ira.
Ça va, lui.
Ça va, merci. C'est complètement. Non, mais si, c'est ça.
Frère, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième terme caché, en fait, qui fait peut-être un peu aussi écho à la question d'Ivan, c'est la question de la grâce, en fait. Si on prend la nature, là, on a raisonné un peu, quand même, dans un contexte, même, quand on a parlé de la nature, même si, après, avec saint Thomas, on voit les choses autrement, puisque la nature est créée, mais on reste dans une nature qui est, on pourrait dire, encore très... classique, antique, aristotélicienne. Bon. Si on prend la thèse que saint Thomas défend, que la nature humaine et l'homme désirent, d'un point de vue ontologique, voir Dieu, même si la fin, il n'en a pas les moyens. Est-ce que, dans ce contexte-là, où la fin de la nature humaine déborde la puissance même de la nature, est-ce que c'est là, justement, où, finalement, le problème de l'art, et on voit très bien avec le cousin, c'est que c'est pas tant la nature que de, finalement, de comparer l'art et la grâce, en fait.
Eh bien, ça, c'est... Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. La question, elle est... Je suis tout à fait d'accord. C'est un champ immense de réflexion. C'est que, en effet, et j'ai été très surpris, ce que dit saint Thomas... En sourdine, parce que c'est pas un thème non plus qui est, comme vous avez vu sur l'art du père, c'est un thème majeur, mais en sourdine sur l'art qui parachève la nature, en fait, c'est on a les mêmes qualificatifs pour la grâce, parce que en effet, l'art supplée et la grâce pour le coup supplée au défaut de la nature et d'une nature viciée. La grâce perfectionne et surélève la nature, et donc finalement la grâce, mais j'ai jamais trouvé une seule fois chez saint Thomas l'expression, serait une sorte, pour le coup, d'art divin qui vient perfectionner la nature de l'homme. Eh bien, pour l'instant, j'ai épluché, mais peut-être qu'il faut encore chercher, mais je pense que je l'aurais vu quand même, il ne fait jamais le parallèle entre la grâce et l'art, la grâce comme une sorte de deuxième art qui viendrait perfectionner cette première œuvre d'art. Mais je suis d'accord, ça m'est apparu comme aussi une sorte de troisième terme, mais qui n'apparaît pas pour comprendre ce qu'est l'art humain et l'art et la techné.
Il y a une analogie.
Mais il y a une analogie. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est frappant. Il y a une analogie finalement entre les pouvoirs de l'art et les pouvoirs de cet art surnaturel
qui est... On ne pourrait pas penser à la prière comme une technique dans ce sens-là.
Si c'est la prière et technique, ça rejoint...
Mais là, je pense que l'écart, en fait, est tellement grand entre la grâce, entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la nature. Est-ce que c'est pour cette raison que saint Thomas réserve le couple art et nature, finalement, dans un ordre naturel, et qu'il ne veut pas l'utiliser pour éviter des équivoques, je ne sais pas.
Et il utilise un peu dans la Pastiapas, quand il parle des sacrements comme une médecine.
Il dit en effet que la grâce et sa nonce, c'est un de ses premiers effets, la grâce et sa nonce, elle guérit. Mais ça, il ne le dit pas, il ne dit pas ça de la techné, par exemple. Parce que, pourquoi? Parce que là aussi, en fait, si, je sais pourquoi il... Ah si, parce que l'art... demeure pour saint Thomas comme pour Aristote un principe extrinsèque. Or, la grâce agit intérieurement. Donc finalement, elle est plus proche d'une seconde nature et que d'une technique. Mais cependant, comme la grâce est déjà un certain effet créé par Dieu, on pourrait aussi, sous un certain rapport, dire qu'elle a un côté artistique.
On parle peut-être de technique d'immédiation, non?
Technique, il met.
Oui, ça, dans le sens où la technique passe par la médiation.
Voilà,
et qu'ici, on aurait une technique, mais.
C'est intéressant.
On remarque l'autre
nom, c'est intéressant.
On y est par le travail des femmes. Par l'analogie, un cercle naturel.
J'ai une question qui est très latérale au sujet du péché. Il me semble que dans ce que vous avez dit, il y a le fait que finalement le péché, ce n'est pas simplement de ne pas obéir au commandement divin, le péché, ce n'est pas simplement de ne pas se rapprocher de notre finalité qui est de voir Dieu et de tout faire pour la gloire de Dieu. Il peut y avoir aussi peut-être dans le péché, mais c'est une question, c'est, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Est-ce que le péché, ça n'est pas aussi d'utiliser ce que Dieu nous donne pour faire le contraire de ce qu'il veut que l'on fasse? Et que là, l'offense à Dieu, elle est aussi là. C'est-à-dire que le pouvoir que Dieu nous donne, c'est un pouvoir qu'il nous donne vraiment. Mais lorsque l'on pêche, on s'en sert pour quelque chose qui est complètement contraire à la nature même de Dieu. Et qu'il y a quelque chose de la nature même de Dieu qui se trouve nié dans l'acte pécamineux que l'on accomplit.
Entièrement d'accord. C'est intéressant, il faudrait faire sur le mal, vraiment, ça serait peut-être quelque chose à causer. Parce que la notion de péché, c'est chez saint Thomas, elle a deux dimensions. Le péché, c'est un retournement, un acte contre nature et contre l'auteur de la nature. Et il parle bien pour l'art de péché de l'art, pas au sens d'un péché, on peut pécher contre l'art lui-même. C'est pour dire qu'il y a une défaillance de la raison. On fait un truc anti-art. C'est pour dire que le péché est quelque chose qui est tout ce qui peut être contre nature. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant, premier point. Et ensuite, pour aller dans votre sens, c'est même quelque chose qui est très, très, très grave, parce que non seulement on produit quelque chose qui est contre Dieu, mais on utilise et on détourne la causalité de Dieu et l'influx qu'il nous donne, qu'il est en train de nous donner quand on produit, pour faire quelque chose qui va contre son ordre. Donc, c'est pas simplement que nous, on est dans notre côté et on produit quelque chose qui va contre lui, mais c'est qu'on utilise le modus operandi et la virtus de sa causalité première pour la retourner contre lui. C'est en effet, là, pris sous cet angle-là, c'est quelque chose, on comprend mieux, en fait, la gravité, en effet, de ce contre...
C'est
contre nature. Ben oui, c'est volontaire.
On peut parler, Jean-Paul II, de structure de péché dans la modernité.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de choses qui convergent pour intensifier une complication destructrice.
Mais c'est vrai que ça, la structure, c'est vraiment, ça insiste sur l'aspect communautaire et comment dire,
l'économique, le politique, la manière de se rapporter à la vie, au corps, tout ça se converge devient comme une mécanique qui statistiquement entraîne l'histoire. Bon, malgré la providence, mais la bataille.
Mais c'est vrai que je trouve que le point de vue métaphysique de se rappeler par quoi on agit et se dire que quand je fais un acte qui va contre la raison et qui contre les règles de l'art, je détourne la causalité de Dieu qui est en train justement d'agir en moi, qui me donne d'agir, ça je trouve que c'est très grave et ça permet de faire ressortir encore plus la notion en effet de péché.
C'est ce que je voulais dire, Père.
Péché faustien, en fait.
Il y a un texte.
Faust, c'est un texte quand même. Très intéressant.
Dans l'ordre du mal, il peut en effet être cause première, c'est ce qui s'appelle le péché. J'inocule du mal dans la création. Ouais. Et Dieu n'en est pas l'auteur, évidemment.
Mais par contre, j'utilise quand même Dieu pour faire le mal. Et ça, c'est vertigineux.
Péché contre l'art, c'est dans le texte de Thomas d'Aquin.
Oui, je pourrais vous. Je crois que je l'ai en note. Je pourrais vous donner.
Moi, j'aurais juste une dernière question. Comment vous définiriez l'invention dans l'ordre humain?
L'invention, je le dirais donc, cette capacité par l'intelligence de produire une certaine forme neuve qui est en dépendance des formes naturelles. Des formes substantielles naturelles qui préexistent et des modus operandi dont je suis moi-même un sujet, parce que je suis une œuvre de la nature, moi-même, une créature, et que j'observe non seulement des formes naturelles, mais des modus operandi. Donc une production d'une forme neuve qui dépend de formes substantielles préexistantes et de modus operandi aussi naturel.
Et peut-être du modus operandi de Dieu qui vise la justice et l'amour à travers ça.
Alors, c'est dans l'ordre de spécification. Et après, si on veut aller plus loin, dire l'invention humaine, après, obéit à des fins. Et si elle rate ces fins que sont de manière prochaine la raison et de manière lointaine Dieu, et tous les biens que sont biens de l'homme, donc, et bien de la raison, bien de l'univers et bien de Dieu, et bien à ce moment-là, cette invention va est une pêche.
Et là, un moderne, je pense, mais il n'y a plus rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au fond, presque rien.
Ben si, parce qu'il y a quand même quelque chose. La cuillère n'existait pas telle qu'elle dans la nature. Mais par contre, c'est bien une forme neuve, neuve au sens du neuf à partir de l'ancien. Mais d'une novité, d'une novitude, pour parler comme Ségolène Royal, d'une novitude qui est une création, non. C'est vrai, on ne crée pas.
Dans le même sens, ça a déjà été dit, mais pour moi c'est important, mettre les points sur les i, les modèles mathématiques, donc les idées qui nous permettent de calculer d'une manière générale nos abstractions, comment on les qualifie, c'est de la technique, c'est un outillage.
Oui, alors la logique, on pourrait peut-être la rajouter, la logique est un art. Ouais. La mathématique est à la fois une science et un art. Et il y a ce double rapport. Quand il s'agit de construire des raisonnements, Saint Thomas dit qu'à ce moment-là, l'effet de construction se rapproche plus de l'art que de la science qui concerne l'évidence. Mais dans le processus mathématique, c'est un art.
Et l'imitation de la nature, là, comment ça se passe?
Eh bien,
dans la démarche hypothético-déductive où justement on essaie de faire abstraction de
poser. Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Je sais pas comment on pourrait répondre à cela.
On a dit en maths, il faut vraiment faire la distinction entre abstraction et construction. Parce que si j'abstrais le nombre 2 à partir de 2 éléments, je ne fais que prendre en effet ce qui se trouve dans la nature. Par contre, si je construis i au carré égale moins 1, c'est des fameuses...
Avec des nombres qui n'existent pas. Enfin ouais, des choses qui n'existent pas, mais qui sont des éléments de modélisation que j'introduis fictivement pour...
C'est un peu comme le droit, c'est un peu long. Est-ce que la mathématique... Est-ce que la mathématique a quand même un point de départ
dans Dieu?
Oui, alors ça, dans Dieu, c'est sûr, mais dans la nature,
c'est ça la question.
Je pense que oui. Après,
il y a des différents niveaux de mathématisables, dirait Marc Benness. Mathématisables immédiats, mathématisables profonds. Si la mathématique produit de la modélisation sans se soucier de tout ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'art, mais je pense que la mathématique peut pécher.
Il y a aussi le rapport à Platon, il n'existe pas de forme séparée mathématique.
On peut modéliser n'importe quoi pour
que ça marche. Si on reprend le rapport au livre, il n'existe pas de forme séparée d'idées mathématiques, mais par contre, il existe bien des idées mathématiques.
Ah, ouais.
Qui préexistent.
Alors là, oui, par contre, je pense que là, on est en train de faire un peu une... À mon avis, on fait une erreur. C'est que je pense qu'il faut vraiment, là, pour le coup, redistinguer bien entre science et art. Et la mathématique est une science qui est en effet déductive et qui part de certains principes qui peuvent être, chez Saint Thomas, des principes sorte innés. Enfin, il ne faut pas non plus oublier les premiers principes. Comme il y a des premiers principes en morale, il y a des premiers principes dans l'ordre spéculatif, et je pense qu'il faut concevoir la science mathématique par rapport à ses premiers principes et aussi par rapport à tout ce que peut apporter l'expérience. Mais on n'est pas dans l'ordre de l'art. En revanche, quand la mathématique opère un certain forme de raisonnement et de construction, il se peut qu'il y ait là, à ce moment-là, une certaine influence de l'art et notamment de la nature.
Un complément peut-être, une idée...
Chez Saint Thomas, il y a des textes qui montrent qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect abstraction, puis il y a l'aspect construction. Voilà. Et Charles de Coninck, par exemple, encore, dit que, et il le dit d'ailleurs pour saint Thomas, que cet aspect-là repose sur l'acte de l'intelligence en tant qu'elle est capable de réfléchir sur son propre acte, et ceci à l'infini. Donc c'est en fait une tautologie. Et Poincaré a bien montré comment on pouvait faire jaillir les mathématiques modernes de cette, du principe d'identité, en fait. En tout cas, à partir du principe d'identité. Et dans sa réflexion sur cet aspect-là, Charles de Coninck, finalement, dit que, il appelle ça un processus dialectique, qui est un art. Et il dit que c'est l'art de la raison qui cherche à imiter, en fait, le mouvement de la sagesse divine, en fait. Donc, ça veut dire que c'est pour aller vraiment dans le sens où il y a un aspect très de construction, mais que cette construction, finalement, comme elle reposerait sur cet acte de l'intelligence qu'elle peut multiplier à l'infini, est une façon, certes imparfaite, qu'il appelle dialectique, donc logique, mais d'imiter, en fait, la sagesse divine. Ouais. Mais en ce sens-là, on est dans une imitation qui est.
Mais je pense qu'il y a aussi encore un autre point à aller dans ce sens-là. Je crois qu'il y a aussi le fait que relève de la création non seulement les choses matérielles, tout simplement, mais également les idées.
Voilà, au sens platonicien, je pense.
Au sens, et là, les noms. Les nombres ne sont pas Dieu.
Parce que la nature, c'est pas seulement les choses extérieures.
Exactement. Et la raison. Et donc, les mathématiques imitent les nombres au sens où c'est des choses qui, pour le coup, aussi existent et que Dieu a créées et qui ne se confondent pas avec l'essence divine purement et simplement.
Qu'on peut aussi trouver dans la nature, d'ailleurs.
Oui.
À ce sens-là, on les trouve dans la nature, le nombre d'or dans la nature. Oui. Et nous pouvons utiliser le nombre d'or pour construire un arc. Ouais. Augustin, lui, pour le coup.
Et même saint Thomas, il y a des commentaires de certains thomistes en Argentine, notamment, qui commencent à dire, mais il y a eu d'autres textes, que l'interprétation usuelle de l'abstraction chez saint Thomas comme un processus qui extrairait du fantasme en fait l'abstrait mathématique n'est pas correct, puisqu'il faudrait le prendre dans une autre forme, en fait, le terme de saint Thomas, et qu'en fait, d'une certaine façon, ce qui est abstrait dans la réalité, en fait. Oui. Et que c'est pas en fait un processus psychologique.
Oui, voilà. Moi aussi.
Et que de fait, chez saint Thomas, donc il y aurait vraiment de l'abstrait, un peu que la quantité comme accident est antérieure à la qualité, et c'est ça qui justifie qu'on peut considérer les choses. Du point de vue de la quantité, en mettant entre parenthèses, mais ça veut dire que la quantité peut exister séparément du reste, ce qui est le cas en fait des corps célestes chez saint Thomas.
C'est pas un essentiel.
Et qu'il y a en plus, vient s'ajouter à la mathématique, une production. D'ailleurs, il le dit, il emploie le mot artifex pour parler de l'intellect agent. Il dit bien que l'intellect agent est un artifex, donc il fabrique l'intelligible. Il n'est pas juste dans une opération de passivité. Voilà, ça c'est l'intellect passif. Donc il a ce côté de fabrication de l'intelligible, et que dans cette fabrication, l'intelligence en fait peut revenir, puisqu'elle est immatérielle, sur son propre acte, et qu'en fait, et c'est ça qui aurait été développé par les mathématiques modernes, c'est que cette réflexivité qui paraît complètement, creuse finalement, avec des mots qui ne signifient plus, puisque ce ne sont plus des mots, mais des symboles, mais cette réflexivité répétée à l'infini, en fait, est générative de relations,
oui, d'accord.
Qui permet de fait qui est au cœur même des mathématiques modernes.
Oui, alors, et là, il y a un point vraiment très très important, je pense qu'il faut, je le signale simplement, parce que je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. Les actes de réflexivité chez saint Thomas sont toujours pensés comme des actes de réflexivité à propos de la pensée d'autres choses. C'est-à-dire que l'acte ne peut faire retour sur elle-même et des actes réflexes que moyennant la pensée d'autres choses. C'est quand je pense l'armoire qui est en face de moi qu'à ce moment-là, je sais que je pense une armoire. Mais il faut bien un objet extérieur qui permette à l'âme ensuite d'avoir une saisie d'elle-même. Il n'y a pas de sens, de sorte de saisie autotélique de soi sans un acte de pensée extérieur. Et donc, du coup, sans une, il n'y a pas de relation ou de principe de, d'identité.
Contrairement aux anges.
Voilà. Mais même. Oui.
Ils reçoivent.
Même eux sont. Même eux,
ils reçoivent.
Ouais.
Ils sont en relation avec Dieu.
Ouais, je sais pas.
Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. C'est un flux. C'est a priori. Mais
contre, j'ai pas compris ce que tu disais sur le fait que les nombres étaient. Enfin, les quantités ou le quantifiable étaient abstraits extramontalement.
Oui, c'est un, on dirait un essentialisme. Et quand tu rapproches.
C'est plus ce que le mot abstrait veut dire à ce moment-là. Parce que tu dis que l'abstrait existe dans la nature.
Ben, alors, l'abstrait formel par rapport à. Aux mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation usuelle assez psychologisante de l'abstraction comme un processus qui consisterait à dégager.
Être...
Voilà. Oui, mais en fait, il y a des textes qui tendraient à montrer que les choses ne sont pas aussi simples et qu'en fait, quand Aristote ou quand saint Thomas, dans le livre des physiques là, sur le mouvement, montre qu'il y a une antériorité de la quantité sur tous les autres accidents, cette antériorité, en fait, On peut aller jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça peut exister sans tous les autres accidents. Mmh. Et qu'en fait, c'est pas juste un processus quant à nous, c'est que dans la nature, la quantité peut exister et pourrait même exister sans la qualité. Tu pourrais avoir une grandeur sans qualité, en fait.
Si, bah, par exemple, dans le cas de l'Eucharistie.
Dans le cas
de l'Eucharistie, il dit que ce qui sert de suppôt, c'est l'accident quantité.
Ouais. Et pourtant, tu ne vois pas. Donc, si tu veux, là, t'es complètement. Donc, si tu veux, il y a vraiment. En fait, il dit, la tendance à psychologiser l'acte d'abstraction comme un processus qui consisterait à abstraire, donc à tirer du sensible, l'intelligible en puissance.
Puis ça reviendrait d'ailleurs à la règle première, c'est-à-dire que ce que nous saisissons par les sens, c'est la réalité. Donc, si nous le saisissons par les sens, c'est pas simplement qu'il y a un chemin des sens vers cette réalité, mais c'est que ce que nous avons dans les sens est bien présent dans la réalité.
Sinon, ça ne peut pas être une science.
Et voilà. Oui. Donc, c'est que, si je saisis un nombre, c'est qu'il est bien quelque part aussi dans la réalité que je saisis.
Ah, mais de toute façon, ils ne confondent pas la matière intelligible est toujours implicitement.
Moi, c'est mon élève, le nombre, vous avez jamais vu ce qu'on est.
Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est limité qu'à l'aspect quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a un aspect logique dans les mathématiques qui s'est développé depuis Viète et compagnie avec la symbolisation. Et quand il dit, par exemple, que quand Descartes, tout simplement, tu dis qu'une ligne, chaque point d'une ligne correspond à un réel, pour jamais dire un grec. C'est une construction qui permet en fait de remplir entre 1 et 2, donc entre deux entiers naturels, la discontinuité qui les sépare par une infinité indénombrable de nombres, comme si finalement vous pouviez passer de 1 à 2 par un processus continu. Là, dit-il, c'est une construction qui repose, et ça c'est très bien montré par l'argument par récurrence chez, par exemple, le raisonnement par récurrence chez Poincaré, qui est vraiment une construction de la raison. Qui joue avec son propre acte, en le répétant, en le réitérant à l'infini. Et c'est dans cette réitération qu'elle construit une sorte de façon de passer de réduire en fait la diversité des concepts. Donc elle réduit cette diversité et elle crée des relations à partir de son propre acte. Et là, on est dans un truc purement constructif des mathématiques,
pas purement,
purement artificiel des mathématiques.
Purement, puisque le point de départ.
Mais le point de départ, il est tellement.
Oui, il est indispensable.
Oui, mais il est tellement lointain, tellement lointain que un point tellement lointain qu'en fait, on ne sait pas ce que ça signifie. Ouais. Donc voilà, le problème, c'est que. Alors qu'en physique, c'est tout le problème, c'est que c'est là où c'est très paradoxal, c'est que on est dans ce genre d'acte qui semble s'autosuffire, sans l'aide vraiment, et plus c'est fécond en physique. C'est là où c'est paradoxal, c'est que c'est justement pas les concepts qui s'enracinent d'une façon assez proche avec notre expérience qui sont les plus efficaces, c'est les concepts les plus extravagants, les plus fous, comme disaient certains, c'est pas assez fou pour que ça soit vrai. Les choses qu'on imagine à partir de raisonnements purement logiques pour satisfaire des exigences de cohérence purement logiques, comme par exemple les nombres imaginaires, qui sont les plus féconds
en réalité.
Donc c'est là où il y a quelque chose que l'on peut comprendre si on refait le côté artifice avec Dieu, le grand...
Oui, c'est intéressant.
Sinon,
on en revient à Platon.
Et on en revient à Platon.